la représentation des liens femmes-sciences dans la littérature du 19e, particulièrement de la deuxième moitié du 19e. Donc voilà, je vais commencer par poser quelques jalons historiques pour contextualiser et ensuite par poser trois préliminaires. D'abord, quelques jalons historiques concernant l'instruction des femmes. 1808, les femmes et les filles sont interdites dans l'enceinte des lycées. 1836, création de l'enseignement primaire féminin. Le 21 décembre 1881, la loi Camisset, c'est-à-dire la loi qui organise l'enseignement secondaire laïque pour les filles, avec des programmes spécifiques, c'est-à-dire pas de grec, pas de latin, pas de philosophie. L'enseignement dure 5 ans au lieu de 7 ans. Il ne permet pas d'obtenir un bac et ne permet pas d'accéder à l'université. Cette loi a été votée moins pour assurer les droits de la femme que pour assurer la stabilité et l'harmonie du mariage. En effet, on s'était rendu compte que la femme était au plus loin du cœur et de l'esprit de son mari, qui était lui très instruit alors qu'elle-même avait été éduquée chez les sœurs, jusqu'à son mariage en général. 1881, Blanche Edwards est reçue au concours de l'externat en médecine. Des étudiants brûlent son effigie, boulevard Saint-Germain. 1884, Clémence Royer, femme de science, donne des cours à la Sorbonne. 1903, Marie Curie obtient le Nobel, première femme à obtenir le Nobel. 1919, création du baccalauréat féminin. 1924, les baccalauréats féminins et masculins deviennent identiques. Alors, qu'en est-il du roman ? Je vais commencer par poser trois préliminaires qui sont en fait liés. En ce qui concerne le roman, dès la fin du XVIIIe, on constate que la femme est rarement représentée comme savante, mais très souvent, en revanche, comme objet du savoir. La femme n'étudie pas, elle est étudiée. Nombreuses sont les dissections posthumes de femmes jeunes, jolies, à la longue chevelure blonde. On en trouve chez Jules Janin, chez Petrus Borel, chez Amédée Pommier, inconnu au bataillon, évidemment aussi chez Sade avec sa Justine. Je vous en ai copié quelques lignes de quelques-unes de ses œuvres, notamment le dernier paragraphe de Don André Vesalius de Petrus Borel. Et la nuit suivante, à travers les barbacanes de la porte, on aurait pu voir André Vesalius dans son laboratoire, disséquant sur son établi un beau cadavre de femme, dont les cheveux blonds tombaient jusqu'à terre. Un des cauchemars de Jean Richepin, c'est une nouvelle qui raconte les démêlés entre une femme fatale et un scientifique. Alors ce scientifique finit par lui adresser la parole une fois qu'elle est morte. « Et comme je t'ai étudiée vivante, je vais bravement t'étudier morte. » Il se mit à la disséquer en conscience. Nombreuses sont, en outre, les expériences in anima vili sur des jeunes filles, comme par exemple dans les mystères de Paris de Eugène Sue et dans les mystères de Londres de Paul Féval. Dans les mystères de Paris, il y a un certain docteur Griffon qui découvre le cas très intéressant d'une jeune fille qui se trouve être une orpheline abandonnée de tous et qui se retrouve dans un hôpital très malade. Elle a la malchance d'avoir une maladie rare. Du coup, le docteur Griffon décide d'essayer sur elle un remède particulièrement osé, au phosphore. « Oui, messieurs, reprit le docteur, du phosphore. C'est une expérience fort curieuse que je veux tenter. Elle est audacieuse. Mais audaces fortuna juvat. » Dans les mystères de Londres, c'est encore pire, puisque là, il y a une jeune Clary McFarlane qui se fait enlever par le docteur Moore qui veut tenter sur elle des expériences de la pire espèce qui l'amèneront sans nul doute à la mort. Le docteur McFarlane ne venait pas là pour prêter à l'agonie le secours de sa science, il venait pour expérimenter, au risque de tuer. Dans Heart of Science de Wilkie Collins, le lien entre l'animal de laboratoire et la femme cobaye se trouve établie de manière on ne peut plus explicite. Je traduis tout de suite en français. De ce jour, Carmina était destinée à recevoir des honneurs inconnus, inédits. Elle devait prendre place, avec d'autres animaux, dans le calepin de ses expériences. Donc, dans son interaction avec la science, la femme, au XIXe siècle, apparaît le plus souvent instrumentalisée et passive. Elle est à la fois objet de la libido Sciendi et de la libido sentiendi du scientifique. Donc, du désir de connaître et du désir érotique. Second préliminaire, ces représentations littéraires donc semblent significatives sur le plan des mentalités. En effet, tout comme les partis ouvriers, les mouvements féministes de la seconde moitié du 19e s'impliqueront beaucoup dans la lutte anti-vivisectionniste. Et pourquoi ? Parce que les féministes s'identifient à ces victimes animales. C'est du moins ce que l'on peut distiller des nombreux pamphlets anti-vivisectionnistes de l'époque. La vivisection animale est en effet sans cesse mise en rapport avec la dissection humaine. Cette vivisection humaine, selon les pamphlets, s'applique d'une part aux pauvres, les cobayes de l'hôpital qui donc sont reçus gratuitement à l'hôpital mais en contrepartie sont l'objet d'expériences, d'une part les pauvres, d'autre part les femmes, qui à l'époque étaient suropérées, notamment l'ovarectomie était pratiquée pour un oui ou pour un non, quand il s'agissait de femmes du peuple sans anesthésie. Le docteur Blackwell parle de female castration, castration féminine, cette Blackwell autant qu'Anna Kingsford, qui est la première anglaise à avoir étudié à Paris, voit dans la chirurgie humaine la prolongation de la vivisection. Les docteurs utilisent donc comme cobayes les pauvres et les femmes au lieu de chiens et de chats. C'est du moins l'idée que l'on trouve dans ces pamphlets. L'imaginaire littéraire, la femme sujet d'expérience, semble dès lors exprimer les mêmes angoisses que les pamphlets anti-vivisectionnistes et ou féministes. Alors ce n'est pas à moi de vérifier le bien fondé de ces angoisses, mais on peut en tout cas parler d'un imaginaire cohérent à cet égard, dans la littérature. Comme dans les pamphlets anti-vivisectionnistes du XIXe siècle, la femme n'étudie pas, elle est étudiée. Troisième et dernier préliminaire, il sera bref, la femme est une éternelle malade. Idéalement, son mari doit être son médecin. Du moins, c'est ce que Jules Médecin a écrit, et c'est ce que certains autres ont cru. En effet, la femme, dans l'imaginaire de l'époque, était une sorte, pas pour tout le monde évidemment, mais l'idée existait que la femme était en quelque sorte une anémique chronique, et l'usage existait notamment d'envoyer ces anémiques chroniques dans les abattoirs, boire un gobelet de sang pour reprendre des forces. Il n'est pas interdit d'ailleurs d'établir un lien entre ce fait et la multiplication des femmes vampires en fin de siècle dans la littérature. L'idée de la femme comme éternelle malade est à retenir puisque c'est surtout des femmes médecins que je vais parler dans la suite de mon exposé. Les jalons donc historiques et les préliminaires montrent d'entrée de jeu que la représentation de femmes scientifiques dans la littérature ne va pas de soi. Qu'elle va même à l'encontre de beaucoup de représentations qui avaient cours à cette époque. Pourtant, on en trouve des femmes savantes dans les romans du 19e. Alors, maintenant j'entre dans le vif du sujet. Je vais parler notamment des grands types de femmes savantes et aussi de ce qu'on reproche à l'instruction poussée des femmes. Comment donc sont-elles représentées ces femmes scientifiques ? Première constatation, il y en a peu. Ça n'étonnera personne, je pense. Jusque dans les années 1870, je n'en ai pas trouvé, en fait. Deuxième constatation, non seulement il y en a peu, mais elles sont peu étudiées. Ce qui fait que j'ai eu le plus grand mal à les trouver. Je me suis fiée surtout au titre. Troisième constatation, quand il y a des femmes scientifiques, ce sont en général des médecins, ou des femmes qui disposent de connaissances médicales. Des femmes, par exemple, éduquées par des médecins, notamment par des oncles, je ne sais pas trop pourquoi, mais il y a beaucoup d'oncles dans ces romans. Alors, à ma connaissance, une exception qui n'en est pas vraiment une, c'est Pépita dans La recherche de l'absolu, qui donc étudie l'alchimie pour reconquérir son mari qui la délaisse pour donc trouver l'absolu. Elle étudie ces sciences interdites malgré son catholicisme fervent. Donc voilà, c'est un peu un cas de figure exceptionnel, mais grosso modo, la femme initiée aux sciences apparaît dans les années 1880, et c'est surtout une femme qui a des connaissances de type médical. Alors, jusque dans les années 1880, il n'était pas possible d'accéder à la profession de médecin pour les femmes, peut-être un peu plus tôt, il me semble que 1870. En tout cas, il était courant qu'elles deviennent infirmières, c'est-à-dire les petites mains de la médecine, et encore faut-il noter qu'il y avait une reluctance à trop instruire les infirmières, On avait peur à en faire des demi-savantes qui pouvaient empiéter sur le vrai savoir, la vraie connaissance du médecin. L'accession des femmes à cette profession était donc relativement révolutionnaire. Il est d'ailleurs intéressant de savoir que le dernier département auquel elle a accédé était le département de gynécologie et des maladies de femmes. Je vais parler maintenant de la femme face au savoir. Quelles sont les réserves par rapport à l'instruction poussée des femmes? La première réserve est d'ordre moral. La science chez la femme entraînerait la perte de la pudeur, de l'innocence, de la naïveté qui était très prisée à l'époque. La femme qui sait n'est à vrai dire plus vraiment vierge. C'est la raison pour laquelle l'étudiante ou la doctoresse a la réputation d'avoir des mœurs légères et d'être une fille facile. Par exemple, dans « Émancipée » de Thérèse Benson, c'est un livre qui a l'avantage de regrouper tous les clichés possibles et imaginables sur la matière à l'époque. Il y a donc un jeune homme qui tombe amoureux d'une doctoresse, donc qui pense qu'il pourra la conquérir à peu de frais, puisque c'est une doctoresse justement. Il se figurait que cette belle personne dont il avait failli tomber amoureux, courbée sur les tables d'anatomie, interrogeant les secrets de la vie et de la mort avec une choquante impudeur, il la voyait fréquenter l'amphithéâtre, les cours où son entrée prêtait au quolibet de ce qu'on appelle la jeunesse des écoles. Ensuite, il s'adresse à un ami où il essaye d'expliquer sa stratégie de conquête. « J'ai grand-peine à croire, pour ma part, qu'une jeune personne qui s'est frottée à la science matérialiste de notre temps ait de bien fermes principes en matière de morale. Dans tous les cas, il ne peut être question d'innocence. » L'idée d'ailleurs que la morale des doctoresses était douteuse peut s'étendre aux infirmières également. Toujours au contact des plaies de l'humanité, l'infirmière a d'ailleurs toujours un statut un peu louche dans les romans. Dans l'imaginaire romanesque, elle tient à vrai dire le juste milieu entre la prostituée et la religieuse. Alors d'une part, c'est vrai que bien que la profession se laïcise à l'époque, on ne renonce pas facilement aux qualités de la religieuse. C'est-à-dire abnégation, dévouement, etc., les infirmières étaient censées avoir toutes ces qualités. D'autre part, l'idée existe cependant qu'au contact permanent de toutes ces misères, notamment des maladies vénériennes, une infirmière ne pouvait pas rester pure. Les infirmières étant même, dans certains cas, présentées comme des prostituées repenties. C'est le cas, par exemple, dans « Virus d'amour » d'Adolphe Tabaran. Oui, rien que le titre. C'est un roman qui vient d'être édité par Daniel Grojnowski, ici présent. Donc, au chevet des malades, une sorte de contamination morale semble s'effectuer sur ce qu'on appelle par ailleurs « chair à carabin ». Dans Paul Bru, le roman d'une infirmière, c'est un roman d'ailleurs que j'ai emprunté ici même à la Bibliothèque des Amis de l'Instruction, il y a en fait les deux clichés qui sont réunis dans la même page. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un jeune médecin qui se permet d'être un peu trop familier avec une jeune infirmière qui vient de commencer à travailler dans cet hôpital. Elle le repousse violemment. Il s'étonne. « Je t'ai offensé, blessé. J'aurais dû deviner que tu n'appartiens pas à la catégorie des filles qui entrent ici d'habitude, en tant qu'infirmière donc. Dis-moi, tu ne te destinais pas au métier d'infirmière. » À la même page, et c'est ça qui est quand même étonnant, « Si tu veux faire abnégation de tout, si pour te consacrer au service des malades, tu consens à vivre comme une recluse, si tu as le courage de vaincre la fatigue, même morale, pour rester toujours prête au premier appel, si tu as la constance de remplir ton devoir jusqu'au bout, sans murmure et sans trêve, c'est bien. » Jadis, les sœurs de charité, et donc après, ils commencent à partir sur les sœurs de charité. Donc on a vraiment cette ambivalence qui est présente à cette page. Le contraire est vrai également. C'est-à-dire que nombreux sont les prostituées et les femmes légères dans les romans du 19e qui font leur apprentissage de la vie en regardant des planches anatomiques. C'est vrai pour l'Ophélie de la Forgue, c'est vrai pour Lulu de Champsaur, c'est vrai pour l'Alphonsine de Virus d'amour, qui consultent les manuels d'anatomie précisément au moment où elle se colle avec son premier amant, qui est un étudiant en médecine. Donc, l'idée que la connaissance enlève à une femme sa pureté me semble liée à ce que j'appellerais le complexe d'Arnolphe. Complexe d'Arnolphe très courant dans la littérature du 19e. Qu'est-ce que j'entends par le complexe d'Arnolphe? Je me réfère évidemment aux femmes savantes de Molière. C'est donc l'idée que l'homme doit instruire, créer, former lui-même sa femme, qui doit donc n'avoir pas encore vécu dans aucun sens du terme, avant de le rencontrer. On trouve l'idée chez Michelet. Il faut que tu crées ta femme, elle ne demande pas mieux. Nous sommes des ouvriers, créateurs et fabricateurs et les vrais fils de Prométhée. Nous ne voulons pas une Pandore toute faite, mais une affaire. Qui suis-je pour créer une femme, quand il continue ? Rien de plus doux que d'enseigner une femme. Tôt ou tard, elle saura tout, etc., etc. C'est au mari d'être l'enseignant, non seulement le médecin, mais aussi celui qui enseigne la vie à sa femme. On trouve cette idée dans de nombreux romans populaires, notamment dans Le Docteur Mystérieux, roman feuilleton de Dumas. On rencontre donc un jeune docteur qui est décrit comme étant une nature de Dieu, incapable d'aimer un être qu'il n'aurait point créé lui-même. Et c'est ce qui se passe, en effet, il recueille une jeune idiote à laquelle il rend son intelligence et qu'il appelle Ève. On note aussi, donc, enfin je reviens à mon histoire d'oncle que j'ai évoquée tout à l'heure, on note que donc dans le docteur Pascal de Zola, la marquise de Sade de Rachilde, la morte d'Octave Feuillet, dans une certaine mesure aussi le docteur Lerne de Jules Renard, une figure de savant paternel qui est à la fois un oncle et duc une fille beaucoup plus jeune que lui pour en faire sa compagne ou son épouse. Dans la plupart des cas, c'est un échec. C'est un échec parce que la jeune fille se révèle bientôt un monstre d'immoralité. Cependant, dans le docteur Pascal, la jeune fille qui fait d'ailleurs aussi office de secrétaire devient finalement la compagne de son oncle qu'elle appelle maître tout au long du roman. Donc première réserve d'ordre moral. Seconde réserve d'un ordre que j'appelle esthétique, mais je ne suis pas sûre que le terme soit bien choisi. En fait, l'idée est que la science semble ôter à la femme ce qui la fait femme, c'est-à-dire sa grâce, sa beauté, sa douceur. Une femme qui sait n'est plus vraiment femme. Dès lors, elle n'a plus droit aux égards et à la galanterie qu'on doit aux vraies femmes. Alors c'est ce qui revient non seulement dans les romans, mais même par exemple dans les discours qui ont eu lieu lors du débat autour de la question Camisset. Par exemple, Jules Simon, qu'il soit bien entendu que nous ne voulons pas faire de petites savantes des petites physiciennes. Il ne faut pas qu'on puisse dire que cette chose aimable, ravissante, qu'on nomme une jeune fille, est devenue à l'école et entre nos mains un sot petit garçon. Alors, j'étais heureuse de constater qu'il y avait quand même pas mal de voix aussi qui se révoltaient contre ce genre d'allégations. Par exemple, Valbert, nous disons que des grâces qui sont à la merci d'un peu de physique ne valent pas qu'on les regrette. Alors, ce qui est remarquable, c'est que la littérature semble en général adopter les points de vue les moins progressistes. Un petit passage toujours de Émancipée de Thérèse Bandson. À propos des doctoresses, le héros dit « J'aime autant les lutteuses ou les femmes à barbe ». Bon, après, il y a toute une explication que lorsque la femme emprunte à l'homme ses habitudes d'esprit, elle se nuit à elle-même autant qu'elle cherche à lui ressembler extérieurement en portant des habits masculins. Ce n'est jamais qu'un petit garçon mal bâti, un savant, avorté, un homunculus éclos à grand-peine dans quelque alambic par des moyens ridiculement artificiels. Décevante et perfide, soit. Pourvu qu'elle reste dans la pénombre, pourvu qu'elle ne revendique pas de droit, pourvu qu'elle ne soit ni bachelière, ni licenciée, ni doctoresse. J'ai peut-être eu tort de parler d'ordre esthétique, car il s'agit peut-être moins de grâce que aussi d'une angoisse de la confusion des sexes. Troisième réserve, c'est une réserve d'ordre social. On craint beaucoup que l'éducation des femmes, que l'éducation poussée des femmes, les empêche d'assumer leur rôle d'épouse et de mère. Qu'on en vienne donc à briser le concept de famille. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans, j'ai envie de dire tous les romans que j'ai lus, présentant des femmes médecins, cette angoisse s'exprime. Un exemple parmi d'autres, dans Princesse de science de Colette Hivert, ça c'est déjà au début du XXe quand même, l'héroïne est une brillante doctoresse qui est mariée. Sur les instances très vives de son mari, elle finit par accepter d'avoir un enfant, mais elle refuse de l'allaiter. Ça peut paraître anodin, mais catastrophe, la nourrice n'a pas assez de lait, du coup elle nourrit l'enfant avec du lait infecté, enfin du lait mauvais, bref, le bébé tombe malade et meurt. Enfin, on peut dire qu'indirectement, c'est cette doctoresse qui est à l'origine de la mort de son enfant. Le mari finit par vouloir l'abandonner pour une femme charmante, pas fort instruite d'ailleurs, mais charmante, et elle décide sur le tard, et même trop tard, d'abandonner sa carrière pour se consacrer aux soins du ménage. La dernière phrase de Cerveline, où on trouve une doctoresse, un bas bleu et une historienne. La dernière phrase est courte, mais elle en dit long. L'amour s'en va. Celui des romanciers que j'ai lu, qui va le plus loin en ce sens, est sans conteste Albert Sim, dans « Émancipé au pluriel », qui a été écrit en 1899. Son roman indique que l'accession des femmes aux études supérieures et aux professions nobles, c'est-à-dire médecine barreau, etc., menace le mariage, et que donc cette accession aura pour conséquence ultime et apocalyptique rien moins que la polygamie et la prostitution généralisée, s'accompagnant de nombreux avortements et autres horreurs. Ce qui était amusant dans la préface de ce roman, c'est qu'il confrontait la France et l'Allemagne. La femme est de plus en plus détournée de la vie de famille et dirigée vers la vie publique et le célibat. On s'applique à la masculiniser. L'idéal serait qu'il n'y eût plus qu'un sexe sur Terre. En attendant que ce glorieux règne arrive, l'Allemagne gagne chaque jour sur nous 1600 habitants. C'est ce qui faisait dire au maréchal de Moltke que les Français perdent tous les jours une bataille. À défaut de femmes mères et de femmes nourrices, nous aurons sans doute alors inappréciable compensation, quantité de femmes avocats, de femmes médecins, de femmes vétérinaires, femmes fonctionnaires, femmes ingénieurs, etc. Bon, à présent, quelques grands types de femmes savantes. D'abord, il y a la disgraciée, c'est-à-dire la femme positivement laide. C'est le cas notamment des étudiantes russes ou anglaises. Les étudiantes en médecine russe étant très nombreuses, paraît-il, à se suicider, étant notablement vilaines. Il y a évidemment toutes les caricatures, par exemple un petit poème d'un auteur d'ailleurs tout à fait oublié, Jean Monnier. Elle est laide et le sait, son front haut et luisant est bombé comme un dôme à forme asiatique. Est-ce une fille d'Ève? En est-on bien certain? Car elle a de l'attrait la docte ressemblance. Alors, ces femmes disgraciées, ce sont très souvent des personnages secondaires. Évidemment, il est entendu que peu d'auteurs et de lecteurs du 19e s'intéresseront à une femme vilaine pendant plusieurs centaines de pages. En Angleterre, il y a un auteur qui est d'ailleurs plutôt progressiste, Wilkie Collins, qui représente plusieurs femmes vraiment intelligentes. Ce sont des femmes très intelligentes, mais en revanche, elles sont toutes les deux très, très, très laides. Bon. À côté donc de cette femme disgraciée, il y a la femme jolie et qui n'est pas perverse, mais qui se trouve poussée par des circonstances à faire carrière, donc qui n'a pas d'indépendance et qui voilà, se décide à faire la médecine. Dans ce cas, il y a toutes les chances pour qu'à la fin du roman, elle abandonne sa carrière pour devenir mère de famille. On pourrait les appeler ce type les jolies repenties. Et enfin, troisième grand type, la femme fatale nouveau type. Elle est belle et elle réunit tous les vices, intelligence, connaissance et dépravation. Cette figure, elle présente quand même l'intérêt d'être proche d'une figure prométhéenne, d'être une figure parfois révoltée, de prendre un peu le contre-pied des attentes sociales de l'époque. Dans La Marquise de Sade de Rachild, il y a Marie, une jeune fille qui est éduquée par son oncle docteur, qui est révoltée contre sa condition de femme, qui refuse et l'amour et l'enfant, qui rend sénile de douleur le dit oncle qu'elle fait mourir, qui s'attaque ensuite à un jeune étudiant en médecine, puis au fils de son mari dont elle boit le sang par grosses gorgées. Elle empoisonne son mari, et ainsi de suite. Dans Madame Morel, femme médecin, il y a une vraie doctoresse qui fait une première faute et qui devient successivement prostituée, infanticide, parricide, empoisonneuse, avorteuse, avant de mourir dans des conditions très attristantes. Dans La Morte d'Octave Feuillet, il y a une jeune savante qui, après avoir empoisonné sa rivale, proclame son darwinisme à son oncle qui est témoin de ce crime. Elle aussi refuse d'ailleurs d'avoir des enfants. L'oncle est tout à fait révolté de voir ce crime. « Vous avais-je donc jamais enseigné d'autres principes, dit-il atterré à Sabine, que ceux que je pratiquais moi-même? D'autres leçons que des leçons de droiture, de justice, d'humanité, d'honneur? L'arbre de la science, lui réplique Sabine, ne produit pas les mêmes fruits sur tous les terrains. Ses prétendues vertus sont en réalité facultatives, puisqu'elles ne sont que des instincts, de véritables préjugés que la nature nous impose, parce qu'elle en a besoin pour la conservation et le progrès de son œuvre. » Donc là, on voit que la science était vraiment perçue aussi comme menaçante, notamment associée au darwinisme et à la perte de la foi. Alors, très nettement, ce sont les deux réserves d'ordre moral et d'ordre social qui apparaissent dans les deux derniers romans dont je viens de parler. Dans plusieurs de ces livres, on met en contraste plusieurs femmes, l'une ignorante, douce et croyante, l'autre savante. Alors, il y a deux médecins dans Madame Morel, femme médecin, la femme fatale dont je viens de vous parler, et puis une doctoresse sage et brillante qui finit par revenir à des idées plus conventionnelles et qui abandonne sa profession pour fonder une famille. Dans Émancipé, il y a une jolie repentie et une étudiante russe qui vit en libre union et qui finit par se suicider. Dans La Morte d'Octave Feuillet, il y a une savante et une croyante bonne et douce qui meurent empoisonnées. Il y a souvent des personnages qui sont très souvent opposés à des femmes moins savantes. Alors, j'ai quand même été très contente de découvrir des cas atypiques, qui témoignaient d'idées un peu plus progressistes. La première de ces figures atypiques, c'est Pauline, dans La joie de vivre de Zola. Pauline, en fait, devient une grande figure maternelle, à la fois chaste et bonne. Elle cumule les fonctions de garde-malade, de sage-femme, et elle fait ses études dans les livres de son cousin, dans les livres de médecine de son cousin, qui avait entamé des études sans les finir. Alors, la citation suivante, donc, qui parle du moment où elle fait son apprentissage, prend le contre-pied de nombreuses citations que j'ai faites antérieurement. Devinant ensuite la nécessité d'une méthode, elle s'était acharnée sur l'anatomie descriptive avant de passer au traité de physiologie. Alors, cet enfant de 14 ans apprit comme dans un devoir ce que l'on cache aux vierges jusqu'à leur nuit de noces. Elle feuilletait les planches de l'anatomie, ces planches superbes d'une réalité saignante. Elle s'arrêtait à chacun des organes, pénétrait les plus secrets, ceux dont on fait la honte de l'homme et de la femme. Et elle n'avait pas honte. Elle était sérieuse, allant des organes qui donnent la vie aux organes qui la règlent, emportée et sauvée des idées charnelles par son amour de la santé. Elle descendit dans les maladies affreuses, dans les traitements de chaque décomposition, comprenait la syphilis, et donc bien des choses lui échappaient. Elle avait la seule prescience de ce qu'il lui faudrait savoir pour soulager ceux qui souffrent. Son cœur se brisait de pitié, elle reprenait son ancien rêve de tout connaître, afin de tout guérir. Il n'y avait pas de mal à savoir. Zola, La joie de vivre. Alors il y en a une autre, une vraie doctoresse cette fois, parce que c'est vrai que donc Pauline a des connaissances en médecine, mais elle n'est pas vraiment docteur. Une vraie doctoresse, Friquette, dans Voyage et aventure de Mademoiselle Friquette de Louis Boussenard en 1898. Alors c'est un livre qui est pour le reste absolument politiquement incorrect. Il est notamment extrêmement raciste. On y lit, par exemple, que les Chinois sont plus lâches que les serpents, plus féroces que les tigres eux-mêmes. Toujours est-il qu'il donne un point de vue progressiste et avancé sur la question de la femme médecin. Notamment cette citation sur les connaissances anatomiques de la jeune fille. Mais aussitôt, un nouveau filet de sang jaillit de l'énorme plaie. Probablement quelques collatérales de l'artère péronnière, observe la jeune fille à mi-voix, comme se parlant à elle-même. « C'est ma foi vrai !» s'écrie le chirurgien. « En vérité, mademoiselle Friquette, vous savez votre anatomie ?»« Oh, si peu !»« Eh bien, mon enfant, je suis très heureux de ce que le commandant de notre armée ait bien voulu vous attacher à mon ambulance. Vous rendrez à nos pauvres blessés de grands services. » Et puis, on trouve encore chez Friquette l'idée peu banale que devenir doctoresse lui servira de porte-respect, que ça abaissera les obstacles devant elle, que ça lui permettra de voyager. En fait, il est très intéressant pour une femme de devenir médecin. Alors, quelques conclusions et quelques pistes de recherche. J'ai donc dit au début de la conférence qu'au 19e, les femmes fréquentaient peu la bibliothèque où nous sommes en ce moment. On peut formuler l'hypothèse qu'une des raisons qui pourrait en être à l'origine est que la femme savante avait globalement mauvaise presse. Et que la BAI se donnait justement pour mission d'instruire beaucoup. J'ai examiné tout au long de mon exposé plus attentivement le cas des femmes médecins et des femmes ayant des connaissances en médecine, cela parce que les autres sciences sont pratiquement absentes. La femme disposant de connaissances médicales semble donc donner lieu, comme je l'expliquais, à un renouveau de l'imaginaire de la femme fatale. Alors en littérature, on a beaucoup étudié la femme fatale de tout type, l'actrice, la prostituée, etc. Mais à ma connaissance, pas vraiment les femmes fatales qui sont le produit d'un excès de connaissances. Donc je pense que ça pourrait être une piste à creuser. Alors, mis à part Pauline et Friquette, les femmes médecins incarnent surtout des angoisses, dans les 30 premières années de l'accession des femmes à la profession médicale. J'essayais d'examiner de quelles angoisses il s'agissait exactement. Donc angoisse de la confusion des genres, angoisse de la démoralisation, de la fin de la famille, etc. Mais aussi et surtout, là où s'exprime une véritable angoisse, c'est dans le véritable renversement qui semble s'opérer. C'est-à-dire qu'elle était étudiée, maintenant c'est elle qui étudie. Elle était examinée, maintenant c'est elle qui examine. Et on remarquera au passage que très longtemps les femmes docteurs étaient priées de s'en tenir à une clientèle de femmes et d'enfants. Plus généralement, il y a, par rapport à cette question du renversement, il y a la question du regard. Alors que la question du regard, du premier regard dans la littérature, est souvent une affaire d'homme, le héros de roman se sent désormais regardé, scruté, examiné. Dans les romans sont très souvent décrits, d'une part, les cadavres et les misères du corps que la femme médecin a trituré, d'autre part, tout ce que la femme médecin a vu. J'ai une citation intéressante à ce propos, tirée de Cerveline. Il s'agit d'une doctoresse, évidemment. Elle le regardait hardiment, de ses yeux limpides et froids, qui avaient vu tant de choses, tant de carnages secrets, tant d'œuvres de fer dans la chair vivante, tant de nudités répugnantes, tant de sang, tant d'horreur. Ce regard de carnage est celui d'une femme médecin. Mais si on lit attentivement ces phrases, il pourrait en fait tout aussi bien être celui d'une criminelle ou d'une psychopathe. C'est un regard qui menace. Même si, dans le cas présent, l'héroïne n'est ni dépravée ni immorale. C'est un regard, lit-on plus loin, qui intimide l'homme auquel il s'adresse. Il n'a plus rien à voir, en tout cas, avec le regard de jeune fille qui, dans les romans de la même époque, se baissait encore en toute occasion. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci.